vous écoutez Matin Première, il y a 7h23, un sujet bien polémique, vu d'ici, dans l'œil de Pierre Marlet sur l'actualité internationale. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Avec vous ce matin, on va revenir sur un événement qui a fait couler beaucoup d'encre, effectivement. C'est la fuite au Mexique du président bolivien Evo Morales. Les réactions, on l'a vu, sont pour le moins divisées. Certains trouvent qu'il l'a bien cherché et d'autres qu'il est victime d'un coup d'État. Alors, qui a raison dans ce dossier, Pierre ?
C'est une question directe, François, et c'est pas évident d'y répondre. Alors, pour tenter une réponse la plus objective possible, eh bien, commençons par retracer le fil des événements de ces dernières semaines. Tout commence le 20 octobre dernier. Élection générale en Bolivie. Au départ, les premières tendances laissent entrevoir qu'un second tour sera nécessaire entre les deux principaux candidats, le président sortant Evo Morales et Carlos Mesa, le candidat de droite. Mais, surprise, voilà que le tribunal suprême électoral annonce une pause dans le dépouillement et puis déclare Evo Morales vainqueur au premier tour. Alors, le vice-président de ce tribunal suprême démissionne parce qu'il s'oppose au système de comptage. Quant au candidat de droite, eh bien, il ne reconnaît pas les résultats et appelle ses partisans à manifester.
Oui, avouez que ce que vous racontez là est de nature à alimenter les soupçons de fraude, Pierre.
Oui, et d'ailleurs, l'Organisation des États américains, observateur du scrutin, émet de sérieux doutes sur le processus du dépouillement et pense que la meilleure option serait de tenir un second tour pour rétablir la confiance. L'Union européenne défendra la même option. Le malaise est d'autant plus palpable qu'on est en droit également de se demander si Evo Morales avait le droit de se présenter au scrutin. Car normalement, la constitution bolivienne l'interdit. C'est deux mandats de suite et basta. Mais Morales ne voulait pas abandonner le pouvoir, sûr de sa popularité. Il a donc tenté il y a 2 ans de faire rejeter cette limitation de mandat par un référendum populaire, mais ce référendum, il le perd. Qu'à cela ne tienne, la Cour constitutionnelle déclare ensuite que limiter le nombre de mandats, eh bien, c'est inconstitutionnel, jugeant que se présenter fait partie des droits de l'homme du candidat président. Rien que ça.
À vous entendre, Pierre, on peut se dire qu'Evo Morales est un peu responsable de ce qui lui est arrivé ?
Eh bien oui, au sens où, comme pas mal de leaders charismatiques, le président bolivien, fier d'ailleurs d'un bilan économique plutôt bon, s'estime indispensable, voire irremplaçable. C'est clair, il a joué avec le feu, déclenchant la colère de ses opposants. Face à la violence des derniers jours, il recule. Dimanche dernier, il annonce la tenue d'un nouveau scrutin, mais c'est trop tard, tout dégénère. Les opposants à Morales mettent le feu à des maisons de ministres. Craignant pour sa vie, le président finit par démissionner et fuit au Mexique, qui lui accorde l'asile pour raisons humanitaires. Seulement avant qu'il ne parte, il y a eu cette étonnante déclaration de William Scalimann, c'est le commandant en chef de l'armée bolivienne. Écoutez.
Sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.
Une traduction, nous suggérons au président qu'il renonce à son mandat présidentiel pour permettre la pacification et assurer la stabilité pour le bien de notre Bolivie.
Et c'est précisément cette déclaration qui fait polémique et qui alimente l'idée d'un coup d'État contre le président bolivien.
C'est vrai que ça jette le trouble. Dans une démocratie, un général a-t-il la légitimité pour, je reprends ces termes, suggérer au président de la République de démissionner. Imaginez juste un instant qu'au plus fort de la crise des Gilets jaunes, le général en chef de l'armée française ait suggéré au président Macron de démissionner pour rétablir le calme. Eh bien, même si comparaison n'est pas raison, c'est à peu près ce qu'a fait le général bolivien. Le président a été lâché par l'armée dans un pays d'Amérique du Sud où, en plus, par tradition, il joue un grand rôle. On comprend mieux pourquoi les partisans de Morales crient au coup d'État. Formellement, l'armée n'a pas pris le pouvoir par les armes, mais elle est sortie de son rôle tout de même.
Conclusion, Pierre, Morales l'a un peu cherché, mais on est quand même pas loin du coup d'État.
Eh ben voilà, vous avez tout résumé. Si l'on remet tout cela dans le contexte de l'Amérique latine, on peut aussi en conclure 2 choses. D'une part, le continent connaît actuellement des crises violentes tournant à l'insurrection. C'est le cas aussi en Équateur et au Chili, ce qui traduit visiblement un malaise social grandissant. Et puis d'autre part, l'Amérique du Sud est traversée par une fracture gauche-droite extrêmement marquée. Alors, c'est pas neuf. Le révolutionnaire Che Guevara a d'ailleurs trouvé la mort en Bolivie, où il était tué par l'armée. Mais Evo Morales, il faisait partie de cette vague de dirigeants de gauche arrivés au pouvoir par les urnes au début du XXe siècle, alors qu'à présent, ce qui domine, c'est plutôt la droite et même, au Brésil, l'extrême droite. On ne peut pas faire abstraction de ce contexte pour appréhender la crise bolivienne, dont on ignore d'ailleurs encore l'issue.
Merci beaucoup Pierre Marlès, c'est un sujet qui effectivement méritait un peu de nuance. Allez, on vous souhaite une belle matinée à l'écoute de la première et on vous invite donc